Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias. Avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité de l'heure, notamment le processus électoral. Mesdames et messieurs, cette émission est coproduite avec Michel Kifindangoy et Tina Salam. Merci de nous recevoir chez vous. Monsieur le ministre Lambert Mende, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
La République démocratique du Congo a organisé ses élections générales le 30 décembre 2018. Qu'est-ce qu'on peut à ce jour considérer comme acquis de ces scrutins?
Ce que l'on doit retenir de ce scrutin, c'est que, en dépit de toutes les prophéties pessimistes qui ont circulé dans la période préélectorale, les choses se sont correctement passées, en dépit de quelques difficultés organisationnelles observées ici et là, mais qui ne sont pas de nature, à mon avis, à entacher la validité du choix ou des choix qui ont été exprimés par notre peuple. Et c'est ce qu'on attend d'un processus électoral démocratique. Et donc c'est cela notre fierté et notre dignité des Congolais qui en sortent regaillardis à l'issue de ce processus.
La machine à voter, décriée pendant un moment par plusieurs acteurs politiques, est-ce qu'on peut dire à ce jour que cet outil a été adopté par le peuple congolais et pourrait servir à l'avenir?
Je pense que la querelle autour de la machine à voter n'était pas fondée sur des motivations objectives. On le voit à travers la réaction de ceux qui en étaient les plus grands pourfendeurs et qui n'ont eu aucune difficulté à l'utiliser et à en reconnaître l'utilité, voire même maintenant à en revendiquer les résultats. Donc je pense que c'était plus un effet de roulement des mécaniques de gens qui ne souhaitaient pas que les élections se tiennent ou qui ne croyaient pas que les élections allaient se tenir et qui étaient plutôt à la recherche de prétextes pour justifier leurs attitudes négatives par rapport à un processus qu'ils estimaient ne pas suffisamment contrôler. Mais il faut quand même leur rappeler qu'une élection n'a pas à être contrôlée par un candidat. Une élection doit être contrôlée par l'administration électorale. C'est ce que la Constitution prévoit et c'est ce que dans un état de droit on souhaite. Ce n'est pas qu'un candidat contrôle une élection, c'est que l'autorité chargée d'organiser les élections la contrôle. Et ce que l'on demande au candidat, c'est de convaincre le souverain primaire de voter pour lui. Mais ici, il y a eu comme plus une sorte de tentative de la part d'un certain nombre de candidats d'usurper les pouvoirs de la centrale électorale. Et c'est ce qui a entraîné tous ces débats qui nous ont fait perdre beaucoup d'énergie, finalement pour rien. Aujourd'hui, on se rend compte que la machine à voter a fait épargner à la nation beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est tout à l'honneur de M. l'abbé Malumalu qui l'a imaginé et de ceux qui lui ont succédé, qui l'ont mis en œuvre.
Pour revenir à la journée du 30 décembre 2018, il y a eu un vote symbolique à Beni. Comment vous le comprenez?
Je ne voudrais pas faire un commentaire sur cette réaction de désespoir d'une partie de l'électorat de Beni. Ce n'est pas tous les gens de Beni, il y a beaucoup de gens respectables. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis à Beni, beaucoup d'amis politiques, des candidats et tout ça. Tout ce que je leur ai recommandé, c'est de prendre en compte le fait qu'il y avait là des problèmes de santé publique et il y avait des problèmes de sécurité qu'un gouvernement responsable, qu'une centrale électorale responsable, se devait de prendre en compte. On ne peut pas sacrifier la vie des individus uniquement parce qu'il faut des élections. Je pense que au-delà des élections, il y a la vie des gens que nous devons préserver par-dessus tout. Au-delà des élections, il y a la sécurité. Et donc, je pense que c'est à raison que la commission, en concertation avec le gouvernement qui est en charge de la sécurisation du processus et la santé publique, a pris la décision de reporter. Il ne s'agissait pas de priver les populations de Beni, de Butembo et de Yumbi dans la province de Maïndombe d'élections. C'est de reporter pour des raisons évidente de sécurité publique et de santé publique, les élections. Et donc il faut savoir faire bon cœur face à ces situations-là. Il ne faut pas désespérer parce qu'on a prévu que le scrutin aurait lieu au mois de mars. Alors bon, il y a des gens qui ont mal pris cela et qui ont voulu se livrer à cette démonstration plus ou moins symbolique. Comme responsable du gouvernement, je n'ai pas commenté cela. C'est un peu une agitation rituelle de rue, de personnes moins patientes. Je les invite à être patients. Ils vont voter pour de vrai au mois de mars.
Vous êtes le porte-parole du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui qualifient la RDC d'État totalitaire après la coupure d'Internet, qui disent que la RDC ne respecte pas notamment les droits de l'homme?
C'est un peu excessif à mon avis. Je ne connais pas de pays au monde où le jour du scrutin, on ne ferme pas les frontières. Est-ce qu'on va dire que ces États sont totalitaires? Chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit dans un pays occidental, des gens qui s'amusent à nous donner des leçons tout le temps, les frontières sont fermées. C'est une atteinte aussi aux droits des gens. Il y a des gens qui veulent se déplacer même un jour d'élection. Quelqu'un qui est en Espagne, il y a une élection en Espagne, la frontière est fermée le jour du vote. Et il ne peut pas voyager. Il est peut-être mécontent, mais ça répond à une stratégie de préservation de l'intégrité du processus électoral. Et donc, c'est normal qu'on prenne certaines mesures de préservation de l'intégrité d'un processus électoral sans pour autant devoir être accusé d'être auteur d'une violation des droits de l'homme pour pouvoir s'assurer que le vote qui est exprimé n'est pas corrompu par divers éléments et notamment par l'usurpation par monsieur tout le monde, par des petits criminels ou des petits délinquants, des pouvoirs qui ne sont reconnus qu'à la centrale électorale. Parce qu'un pays n'est pas composé que de saints. Nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes dans un pays où les pouvoirs de l'État consistent aussi à permettre que lorsqu'un exercice aussi important que celui-là, il n'intervient qu'une fois tous les 5 ans. Il faut s'en assurer de l'intégrité de ce vote, qu'il n'y ait pas des mécanismes d'interférence qui ne sont pas souhaités par la loi, par le législateur, c'est-à-dire par le peuple lui-même. C'est pourquoi on peut fermer une frontière, c'est pourquoi on peut aussi réduire la circulation même des informations par les réseaux sociaux lorsqu'on se rend compte que, manifestement, il y a des gens qui veulent profiter de cela, du fait que les frontières sont ouvertes, du fait que les réseaux sociaux restent disponibles pour pouvoir manipuler le processus en violation de la loi électorale et en violation de la volonté qui est exprimée par le souverain primaire. Ce sont des choses qui sont régulièrement observées partout dans les pays démocratiques. Ne nous flagellons pas pour rien.
Si je vous comprends, certains opérateurs économiques qui travaillent dans le domaine de l'Internet, des réseaux sociaux, doivent encore prendre leur mal en patience, parce qu'ils évoquent des manques à gagner.
Je pourrais difficilement vous répondre utilement à cette question, n'ayant pas les réseaux sociaux dans mon secteur d'activité, contrairement à ce que beaucoup de vos collègues répandent partout. J'ai même subi des sanctions de l'Union européenne et j'ai entendu l'ancien ambassadeur de l'Union européenne raconter partout que c'est le ministre de la Communication qui a coupé Internet. Comment pourrais-je couper Internet alors que je ne suis pas en charge de l'Internet? Dans l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères, Internet, les réseaux sociaux relèvent de mon collègue des postes, téléphones, communications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc je pourrais difficilement vous donner utilement une réponse sur le manque à gagner d'Internet puisque je n'ai jamais commandé une étude là-dessus, n'étant pas en charge de ce domaine-là.
Cette fois-ci, on sera dans votre domaine. Il s'agit de la coupure du signal de certains médias internationaux, notamment RFI et ici en local CCTV de Jean-Pierre Bemba. Que leur reprochez-vous?
Nous avons interrompu le signal des 2 médias qui se sont permis de proclamer des résultats, d'annoncer des tendances en lieu et place de la Commission électorale nationale indépendante. La loi réserve cette prérogative à la seule Commission électorale nationale indépendante. Et le rôle d'un gouvernement, c'est d'appliquer la loi. Lorsque vous violez la loi, il est permis à un ministre de prendre des dispositions conservatoires pour s'assurer que la violation de la loi cesse et passer le bébé, comme on peut le dire, aux autorités qui peuvent sanctionner, que ce soit les autorités judiciaires ou les autorités de régulation comme le CESAC. Donc le gouvernement a pris les dispositions conservatoires contre deux médias qui étaient occupés à exercer les attributions exclusivement réservées à la Commission électorale nationale indépendante et de manière telle que cette manière de faire pouvait avoir un impact sur la sécurité publique, qui relève aussi des attributions du gouvernement. Voilà ce qui a été fait. Nous avons reçu des recours de ces deux médias, nous les examinons. Si ces recours sont justifiés, on va leur répondre positivement. S'ils ne sont pas justifiés, ils devront s'en expliquer auprès des deux instances dont je viens de vous parler, soit la justice, soit l'instance de régulation, parce que nous sommes un état de droit.
Radio Okapi. Grande interview.
Je rappelle que Grande Interview reçoit Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez à certains opposants qui estiment que l'accès aux médias officiels, notamment à la RTNC, leur est complètement fermé, leur est presque interdit?
C'est totalement faux. Moi-même, j'étais à l'intérieur pour ma campagne, mais j'ai suivi tous les candidats, notamment à l'élection présidentielle. Je ne pense pas que cela aurait été possible avec les candidats députés nationaux qui sont plus de 15 000 ou députés provinciaux qui sont plus de 19 000. Mais pour les candidats présidents de la République, j'ai suivi que tous les candidats qui l'ont souhaité ont eu le temps de pouvoir vendre leur programme, leur projet de société dans ce média public au cours des missions ou de déclarations qui ont été organisées par la RTNC avec l'assistance du CESAC qui a organisé ces émissions. C'est ce que la loi exige et cela a été fait. Le reste, c'est des activités commerciales, comme je vous le dis.
Et donc, ils doivent approcher la RTNC et payer leurs droits.
Ceux qui l'ont fait, en tout cas, ont eu accès. Et moi, j'ai suivi cela plus d'une fois et pour plus d'un candidat. Donc, il faut arrêter d'accuser la RTNC sans apporter des preuves. Il faut des preuves. Je pense pour moi que ce que le CESAC a fait a été bien fait. Tous les candidats ont été entendus sur le média public qu'est la RTNC.
Comment vous expliquez ces relations en dents de scie entre le gouvernement congolais et la CENCO, qui est aussi un des partenaires importants?
La CENCO est une organisation privée. C'est une organisation confessionnelle. Il y en a plus d'une dizaine dans ce pays, mais on a l'impression que certains responsables au sein de cette organisation confessionnelle veulent lui donner des attributs institutionnels qui ne sont pas les siens. Nous pensons que une organisation confessionnelle doit se limiter à la propagation de sa foi et ne pas se substituer aux instances politiques. Il y a dans ce pays un Parlement national, il y a des assemblées provinciales qui représentent le peuple. La CENCO n'a reçu aucun mandat de qui que ce soit pour parler au nom du peuple congolais, mais il y a comme une usurpation de qualité dans le chef de certains responsables, je ne dis pas tous, certains responsables de la CENCO, qui se prennent vraiment pour des porteurs d'une mission de représentation des intérêts de la population, alors qu'il n'y a que des personnes élues dans une démocratie qui peuvent assumer ce mandat. Et donc, lorsque la CENCO veut usurper les pouvoirs qui sont reconnus à des institutions qui sont installées démocratiquement, il est normal que du choc de cette tentative d'usurpation jaillisse un conflit qu'il faut bien que nous puissions gérer. Et nous devons gérer cela au regard de nos lois, nous devons gérer cela au regard de l'accord cadre qui nous lie au Saint-Siège, c'est-à-dire à l'Église catholique, comme nous avons des accords avec d'autres confessions religieuses qui, elles, font l'effort de respecter leur statut, contrairement à certains responsables de la CENCO. Donc chacun doit rester à sa place et exercer ses attributions et ne pas chercher à usurper les attributions des autres, puisqu'à ce moment-là, l'État se sent comme envahi dans un secteur qui est le sien, et quel que soit celui qui est à la tête de l'État, il n'y a aucun État qui peut accepter qu'une organisation privée exerce des attributions régaliennes qui sont réservées aux seuls élus dans les institutions politiques publiques. Voilà le problème que nous avons avec la CENCO, on peut les résumer comme cela.
Monsieur le ministre, la mission d'observation de la Conférence épiscopale nationale du Congo a déclaré à la suite de sa compilation détenir le nom d'un candidat sans donner une quelconque tendance, un quelconque chiffre, ni avancer un nom. Qu'est-ce qui gêne le gouvernement congolais dans cette déclaration? On a suivi des déclarations assez virulentes par rapport à ça.
Ce qui nous gêne, c'est la mauvaise foi qui transparaît à travers cette déclaration. Tout d'abord, la CENCO a revendiqué avoir déployé 40 000 observateurs à travers la République. Vérification faite, je vous invite à le faire même auprès de ceux qui accréditent les observateurs. Il n'en est rien, c'était un mensonge. Ils n'ont reçu des accréditations que pour 17 000 observateurs, tels qu'ils ont demandé. Et donc, pourquoi ce mensonge d'abord? Vous dites 40 000, en réalité vous n'en avez déployé que 17 000. Deuxièmement, comment avec 17 000 observateurs, on peut, dans un pays où il y a près de 80 000 bureaux de vote, avoir une projection représentative en moins de 48 heures après le vote? C'est mathématiquement, c'est logiquement impossible. Donc c'est de la politique politicienne, c'est de la politique à la petite semaine. On a voulu simplement influencer l'électorat, on a voulu créer une impression fausse de résultats qui n'existent pas en réalité. Donc déjà le mensonge de la CENCO qui, ayant déployé 17 000 observateurs, prétend avoir déployé 40 000, devait nous mettre la puce à l'oreille. Nous, comme dirigeants de ce pays, nous, comme citoyens de ce pays, pourquoi ce mensonge? Deuxièmement, le fait de dire que l'on détient le nom de la personne et qu'on met en garde, vous savez, le caractère combinatoire vis-à-vis de la Commission électorale nationale indépendante. Ce procès d'intention que l'on ferait à une institution dont la Constitution garantit l'indépendance, c'est comme si on allait devant un juge et qu'on lui disait « si vous ne prononcez pas un jugement conforme à ce que moi je pense, je vais vous mettre en difficulté ». Ça c'est un manque de respect vis-à-vis des institutions nationales, un manque de respect vis-à-vis du peuple congolais. Et nous avons l'impression que ceux qui ont parlé ainsi au nom de la CENCO prennent leurs ordres à l'extérieur de notre pays. Nous avons nos informations et nous ne pouvons pas tolérer, nous qui avons voulu aujourd'hui avoir un processus électoral totalement contrôlé par les Congolais, éviter les interférences extérieures et qui sommes engagés dans une querelle d'intérêts avec certaines puissances dont nous avons l'impression, la CENCO l'a reconnu elle-même, que ce sont ces puissances qui financent cette mission d'observation des 17 000 qu'ils ont voulu transformer en 40 000. Ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes milieux qui, avec lesquels nous avons des querelles sur notamment le code minier, qui aujourd'hui essayent d'utiliser le grand respect dont jouit certains membres de la CENCO pour pouvoir manipuler notre processus électoral. Et il appartient à tout Congolais digne de ce nom de s'opposer de toutes ses forces à toute interférence extérieure dans le processus électoral de la République démocratique du Congo. C'est un problème, encore une fois, d'intégrité du processus électoral. On ne peut pas laisser des étrangers venir choisir à notre place ceux qu'ils préfèrent nous diriger. C'est à nous à décider. Or, on a l'impression que la CENCO se fait l'instrument de ceux qui veulent nous imposer des gens qui vont venir nous diriger pour leurs propres intérêts. Et c'est ça que un gouvernement nationaliste ne peut pas accepter et trouve qu'il y a à redire dans cette démarche peu conforme à la vertu catholique. Moi, je suis catholique. Et dans le catholicisme, on nous apprend que le mensonge n'est pas une vertu. Le mensonge est un vice. Il appartiendrait à la CENCO au cas où elle ne serait pas conforme à ce que ces 17 000 observateurs auraient observé, d'aller devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi cet empressement? On a l'impression qu'il y a eu une mission de déstabilisation de notre processus électoral et nous devons défendre la stabilité et l'intégrité de notre processus électoral. Voilà le fond de ce problème-là.
Monsieur le ministre, deux questions avant que l'on ne clôture cet entretien. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, membre de la coalition Cap vers le changement, qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi, a confirmé un rapprochement entre cette coalition et le FCC. Quel format prendront ces négociations? Allez-vous aboutir à un gouvernement d'union nationale? Qu'est-ce qui va se passer?
Je ne sais pas vous confirmer ou démentir ce que M. Kabound a dit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, comme Front commun pour le Congo, ici je parle à ce titre, comme responsable de la communication de ce Front commun pour le Congo, nous sommes d'avis qu'il y a un temps pour tout, pour chaque chose. Il y a un temps pour se disputer les suffrages de nos populations, et puis il y a un temps pour considérer l'intérêt supérieur du pays qui appelle à l'unité des fils et des filles de ce pays, parce qu'il y a quelque chose qui est plus important que nos ambitions politiciennes. C'est l'intérêt du pays qui va au-delà des intérêts de ceux qui veulent venir nous imposer leur volonté. Et cet intérêt, plus nous serons unis, plus nous serons à même de le défendre. Hors de l'unité, nous serons faibles. Et ceux qui veulent nous imposer, par exemple, les prix de ces matières premières, je vous parle d'expérience, trouveront ici un mur d'autant plus opaque que nous serons plusieurs Congolais, le plus grand nombre, à le constituer. Mais si nous y allons dans la division, ils trouveront toujours la possibilité de passer au travers et de continuer à faire de nous l'arrière-cour de leurs propres intérêts. Donc oui, nous estimons qu'à un moment donné, il va falloir que ceux qui se sont opposés pendant le scrutin puissent se retrouver ensemble au chevet d'un pays qui a tout pour devenir une puissance en Afrique, mais dont la division de ses fils a rendu très fragile face aux appétits gloutons de ceux qui convoitent ces richesses immenses
pour gérer
à travers
ensemble,
le monde.
Pour gérer ensemble.
Pourquoi pas? On verra les conditions qui seront mises en place et on verra qui fera quoi. On pourra envisager des passerelles. Je pense que si le groupe auquel M. Kabound appartient est prêt à ces passerelles-là, nous n'allons pas rejeter la main tendue, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour unir tous les Congolais, et le principe derrière le Front commun pour le Congo, c'est que la seule condition, c'est la passion pour le Congo. Vous trouverez déjà dans le Front pour le Congo d'anciens amis de M. Kabound qui partagent avec lui la même idéologie. Et donc nous continuons à maintenir cette main tendue. C'est pourquoi même notre candidat M. Jadari s'est présenté comme indépendant, quoique avec l'appui du Front commun pour le Congo. C'est pour rendre plus facile cette approche de rassemblement de tous les Congolais autour des intérêts du Congo.
Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, la dernière question, vous le savez, l'Union européenne a reconduit les sanctions contre 14 personnalités congolaises en guise de mesures de réciprocité ou de rétorsion. La RDC a expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Jusqu'où le gouvernement congolais est-il prêt à aller dans ce bras de fer?
Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire?
Il n'y a pas de limite à l'intérêt national. Tout comme les Européens estiment qu'il n'y a pas de limite à leur souveraineté, nous ne pensons pas qu'il y ait des limites à notre souveraineté. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Lumumba l'a consenti, et je ne connais pas un seul Congolais aujourd'hui qui fasse grief à Lumumba d'avoir défendu l'intérêt national. Donc nous sommes sur les pas de Patrice Lumumba, nous sommes sur le pas de Mzé Laurent Désiré Kabila. Nous pensons que tout a un prix. La dignité de notre pays a un prix. Si ces sanctions doivent être considérées comme un prix, nous les assumons. Et moi, je suis parmi les 14 personnalités et je suis heureux d'avoir été sanctionné pour mon pays. Quand je me regarde le matin devant le miroir, je vois un nationaliste qui est en train de payer pour que son pays retrouve sa dignité. Et je voudrais qu'il en soit ainsi pour tous les jeunes qui vont venir après nous, pour qu'ils sachent que notre dignité n'a pas de prix. Il n'y a pas de limite à la dignité d'un peuple. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. C'est à eux de comprendre que ce pays n'est pas à eux, parce que nous ne sommes jamais allés chez eux pour les sanctionner, parce qu'ils ne prennent pas en compte nos intérêts. C'est eux qui viennent nous sanctionner parce qu'ils veulent contrôler nos ressources, parce que nous avons augmenté les prix de nos ressources au profit de notre peuple. Donc jusqu'au bout, nous sommes prêts à aller, jusqu'au jour où ils comprendront que ici vivent des hommes et des femmes dont on doit respecter la dignité et dont on doit respecter les intérêts en tant que pays qui a le droit de s'autodéterminer. Parce qu'en réalité, ces sanctions ne sont que la négation de l'autodétermination du peuple congolais. Nous ne sommes pas un pays européen. Qu'est-ce qui justifierait que l'Union européenne nous sanctionne? Nous sommes un pays membre de la communauté des nations. Il n'y a que le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a le pouvoir de nous sanctionner. Si l'Europe nous sanctionne, c'est une tricherie. C'est une tricherie parce que rien ne permet à une organisation régionale de sanctionner un pays qui n'appartient pas à la région qui est l'Union européenne. Et donc c'est une tricherie destinée simplement à jouer sur les plus faibles d'esprit d'entre nous dans l'espoir que les choix de la population allaient se déporter de ce courant nationaliste, patriotique qu'incarne Joseph Kabila et nous tous pour aller vers le courant de ceux qui sont prêts à s'agenouiller, à se déculoter pour servir les intérêts de ces Européens-là. Et j'ai l'impression que ils ont eu tout faux et qu'ils vont bientôt regretter d'avoir pris cette option-là.
Monsieur le ministre, en guise de conclusion, un mot à tous ces millions de Congolais qui vous suivent partout au pays et à travers le monde et qui aspirent à la paix et au développement de la RDC.
Nous sommes à la veille d'une ère nouvelle. Cette ère a été préparée et de la bonne manière par le président Joseph Kabila qui a vraiment remis la décision entre les mains des Congolaises et des Congolais en faisant en sorte que notre processus électoral soit débarrassé de toutes les frioritures des interférences possibles de l'extérieur. Nous avons consenti tous les sacrifices nécessaires en sacrifiant certaines dépenses utiles pourtant pour dire maîtrisons notre propre processus, finançons-le nous-mêmes. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons certaines routes être dans un état lamentable, que certains hôpitaux soient dans un tel état et que nous puissions mettre plus $1 milliard rien que pour le processus électoral. C'est le prix de notre dignité. Et donc maintenant, il appartient aux femmes et aux hommes de ce pays de se saisir de cette opportunité que Joseph Kabila vient de leur offrir pour que ce pays, comme Lumumba l'a dit, soit à eux. Pour que l'histoire du Congo désormais s'écrive au Congo et plus jamais à Bruxelles ou à Paris ou à Washington comme cela a été le cas au cours de ces 59 dernières années. Nous sommes un peuple libre, nous devons assumer notre liberté et je pense que c'est le message qui va guider maintenant tous nos programmes, toutes nos actions. Il faut que le peuple soutienne cette action. Et je pense que dans 2-3 ans, avec les potentialités dont nous sommes pourvus, il est possible que nous devenions très rapidement un État émergent. Il ne faut pas désespérer de l'homme du Congo, parce que jusqu'à présent, c'est sur nos consciences avilies que nos anciens maîtres se sont assis pour essayer de maîtriser la situation dans notre pays, pour essayer de maîtriser nos propres potentialités. C'est sur notre prise de conscience que nous devons asseoir désormais notre propre émancipation et le fait que nous pourrons contrôler nos propres richesses au mieux de nos intérêts. Il ne nous est pas interdit de commercer, il ne nous est pas interdit d'avoir des relations de partenariat, mais il faut que nos intérêts soient pris en compte. Ils l'ont été très peu jusqu'à présent, nous voulons que on en prenne plus compte. Et voilà le message que je peux donner aux uns et aux autres. L'indépendance reste à conquérir. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a offert comme un cadeau. Voilà que plus de 60 ans après, nous continuons à lutter pour qu'on prenne cette notion d'indépendance au sérieux. Il faut que le peuple se mobilise derrière cette notion d'indépendance et d'autodétermination.
Monsieur le ministre Lambert Mende, merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Tina Salama, coordination Michel Kifindangoy, présentation Alain Irung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.